Vos messages sont les bienvenus, la page Facebook. Merci d'être là. Bon réveil, samedi, RTL, 9h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal d'Agnès Bonfillon.
Voici toute l'actualité de ce 9 novembre 2019. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Steph Carpi, ce serait un beau nom de code et je ne plaisante pas Stéphane, hein. Vous pourriez tenter de devenir espion à la DGSI. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure lance une campagne de recrutement sans précédent, entre 5 et 600 postes à pourvoir par an jusqu'en 2024. Alors attention, hein, la DGSI ne cherche pas que des policiers, mais aussi des techniciens spécialisés, des traducteurs, des informaticiens. Et sachez que pour être embauché, eh bien, votre passé sera scruté dans ses moindres détails, forcément, Olivier Bois.
Oui, et la DGSI ne recherche pas que des policiers, loin de là. Face aux risques terroristes, face aux risques d'espionnage économique, face aux risques de cyberterrorisme, ils ont besoin de tous les profils, des informaticiens de haut niveau, des techniciens, des financiers. La DGSI est donc présente pour la première fois sur le réseau social professionnel LinkedIn. Ils font également le tour des grandes écoles, des grandes universités pour attirer les talents. Nicolas Lerner est le directeur de la DGSI.
J'ai envie de dire au final que le profil, le diplôme, la carrière, l'expérience importe peu. Ce qui nous intéresse, ce sont des jeunes, des hommes, des femmes, des individus aussi ou des professionnels au parcours plus confirmé qui souhaitent simplement servir leur pays, servir un service de renseignement. Un candidat idéal, c'est un candidat bien dans sa tête, bien dans ses baskets, qui a envie de servir son pays.
Alors, il faut quand même se préparer à un recrutement un peu particulier parce que tous les employés de la DGSI sont habilités secret défense. Les enquêtes sont assez poussées. Il faut compter entre 3 mois et 1 an pour valider une embauche.
Olivier Bois du service police-justice de RTL. Elle a gardé le silence pendant 44 ans. Une photographe française accuse Roman Polanski de l'avoir violée en 1975 en Suisse. Nos confrères du Parisien aujourd'hui en France qui sortent ce témoignage ont également joint l'avocat du réalisateur. Et ce dernier déplore, je cite, de telles accusations à la veille de la sortie de J'accuse, le nouveau film du cinéaste.
À 4 mois des municipales, certains y verront peut-être une heureuse coïncidence. La Cour des comptes épingle la ville de Marseille. Ça y est, pas qu'un peu. Hein.
Il a fallu 700 pages à l'institution financière pour décortiquer la gestion de la cité phocéenne depuis 2012. Absence de stratégie claire, dépenses de personnel incompatibles avec la durée de travail constatée ou encore gaspillage des deniers publics. Le prochain conseil municipal, le 25 novembre, risque d'être tendu, voire houleux. En tout cas, Yves Morenne, le maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements de la ville, s'insurge contre ces deux rapports.
Ce sont des rapports partiels, partiaux, souvent erronés, dans lesquels la Chambre régionale des comptes fait des erreurs grossières. Les agences internationales de notation, qui sont peut-être plus compétentes en la matière que la Chambre régionale des comptes, ne cessent de louer l'amélioration des finances de la ville de Marseille. Qu'en matière de gestion du personnel, la ville de Marseille a pris de l'avance sur les autres grandes villes de France. Et donc on va démontrer que la Chambre régionale des comptes n'a tenu aucun compte de tout cela, a bâclé un rapport au cœur du mois d'août, ce qui n'est pas l'habitude des magistrats. Tout ça pour que ça sorte en pleine campagne électorale. Ils veulent un débat. Eh bien, ils vont l'avoir. Ils seront contents du voyage et de nos réponses.
Le maire des 6e et 8e arrondissements, Yves Morenne, au micro RTL de Julien Fautrat.
Dans l'actualité également, le couac gouvernemental qui tombe mal à l'approche du 5 décembre.
Le 5 décembre, à partir de ce jour-là, la CGT Cheminot rejoint l'appel à la grève reconductible de Sudrail et de l'UNSA Ferroviaire. Hier, Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, s'est fait recadrer par le Premier ministre. Il avait fait comprendre qu'il était contre la fameuse clause du grand-père. En fait, vous savez, cette clause consiste à appliquer la réforme aux nouveaux entrants sur le marché du travail, pas aux anciens. Jean-Paul Delevoye donc s'est dit contre cette clause et Édouard Philippe lui a bien rappelé que ce n'était vraiment pas le moment de faire des vagues, surtout à l'approche de ce fameux 5 décembre, journée noire sur les rails, qui risque bien de se prolonger, comme l'explique Arnaud Marcinkiewicz, responsable de la section CGT Cheminot de Montparnasse.
On verra le 5 en fait, lors des assemblées générales de cheminots qui se réuniront et discuteront ensemble et se poseront certainement la question après du 6 et chaque jour par période de 24 heures pour les grèves, alors sachant qu'il n'y aura pas que le sujet des retraite qui sera dans les débats. Il y a une ambiance et un climat assez compliqué à la SNCF sur nos conditions de travail. Donc forcément, ça va mobiliser aussi pour le 5 au-delà du CG des retraites, quoi.
Et vous, donc, en tant que responsable syndical, le 5, vous défendrez l'idée de continuer ou d'arrêter ?
Bah, écoutez, alors déjà, d'ici le 5, il peut se passer plein de choses. Je veux dire, il peut y avoir des annonces qui font que même le 5, on soit par le club. Mais ça appartient à la direction de nous faire les annonces et de prendre en compte nos revendications et de calmer le climat dans l'entreprise. Et ça dépendra, bien sûr, de l'avis des cheminots qui débattront et qui se prononceront pour ou contre la poursuite du mouvement le 5. Mais effectivement, voilà, à mon avis, on sera en grève le 5 et ensuite, voilà, on se posera la question le 5 de savoir si on continue aussi, etc., etc.
Des propos recueillis par Eric Vanier pour RTL. Bon.
9h07, RTL Matin, Stéphane Carpentier, la suite du journal d'Agnès Bonfillon avec l'actualité à l'étranger.
Et donc la Turquie qui a l'impression de ne pas être prise au sérieux par l'Europe, Agnès, et donc elle change de ton.
Oui, le pays menace ni plus ni moins de renvoyer 1150 membres de l'État islamique actuellement détenus dans ses prisons. Lundi dernier, le ministre de l'Intérieur, Muammar Güler, avait déclaré « Nous ne sommes pas un hôtel pour les membres de Daesh ». Eh bien, il y a quelques heures, il a carrément fixé une date, ce sera après-demain.
Nous disons aux Européens, nous allons vous renvoyer les membres de l'État islamique que nous détenons. Qu'ils soient 3, 5 ou 10, ce ne sont pas nos ressortissants, ce sont les vôtres. Que vous les ayez déchus de leur nationalité ou pas, ce sont vos concitoyens. Vous nous les avez envoyés ici comme des paquets cadeaux. Nous allons vous les renvoyer.
Le ministre de l'Intérieur turc qui s'adresse à plusieurs pays et précision importante hein, sur les 1150 détenus. Impossible de savoir s'il y a des Français et surtout combien. Après un an et demi de détention, l'ancien président brésilien Lula est libre depuis hier soir. Il avait été condamné pour corruption, une manœuvre politique selon ses partisans. Très, très nombreux hier soir à l'attendre devant la prison dans laquelle il était incarcéré. Des rassemblements gigantesques ont également été organisés dans tout le pays pour saluer celui qui incarne l'opposition face à Jair Bolsonaro, l'actuel président d'extrême droite.
RTL, il est 9h09.
Retour en France, Agnès. Les évêques sont réunis à Lourdes et ils s'apprêtent à voter ce matin plusieurs mesures.
Mesures en faveur des victimes d'abus sexuels et des décisions pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. Cela fait un an maintenant que des groupes de travail étudient ces questions sensibles et des victimes sont d'ailleurs associées à ces travaux, Marie Guerrier.
Les mots utilisés par les évêques pour parler de cette reconnaissance financière ne convenaient pas aux victimes, comme Véronique Garnier.
Quand on parle d'un geste financier, pour nous c'est un peu condescendant. Ou bien une allocation, bon, on n'est pas non plus des assistés.
Finalement, le terme soumis au vote ce matin est plus neutre, une somme. Et ce qui compte pour Jean-Luc Souffeton, c'est le sens que les évêques ont décidé de lui donner.
On parle d'une somme versée en reconnaissance de la souffrance, du fait de l'indifférence, du fait du silence, du fait de la mauvaise gestion, du fait des défaillances, du fait des dysfonctionnement de l'institution. Et j'avoue que ça fait du bien.
Il va falloir encore travailler sur le montant du forfait, les conditions d'attribution. Et puis il y a en parallèle un travail de mémoire auquel sont associées les victimes.
Alors on a essayé de voir un peu dans les autres pays qu'est-ce qu'ils ont fait. En Belgique, il y a eu à la fois des célébrations, mais aussi des œuvres d'art qui posent cette mémoire. Je crois que j'aimerais, alors on n'en est pas encore là, peut-être une œuvre collective, une œuvre artistique collective qui fait qu'on n'oubliera pas tous ces enfants abusés. On va encore travailler avec les évêques.
Un autre groupe travaille sur la prévention et un quatrième sur l'accompagnement des prêtres coupables ou en fragilité.
Peut-être c'est ce groupe-là qui est le plus difficile pour nous, mais c'est très important qu'on soit là. On se trouve devant un chantier énorme.
Les victimes ont la sensation que ce qu'elles disent est entendu et en partie prise en compte.
Le reportage de Marie Guerrier pour RTL. 8 ans de prison pour Claude Chaussa, ancien membre du gang de la Brise de Mer, en Corse, il avait décidé d'aider la justice, ce qui ne l'a pas empêché d'être condamné par les assises d'Aix-en-Provence hier pour complicité dans l'assassinat de Richard Casanova.
Les sports en Australie d'abord, c'est bien parti pour les Françaises en finale de la Fed Cup de tennis.
Oui, c'était bien parti. Malheureusement, le vent a très vite tourné à Perth lors du deuxième match de la journée. Les Australiennes sont revenus et nous sommes donc à un partout, Isabelle Langer.
Oui, Kristina Mladenovic avait parfaitement lancé le week-end en surclassant en 2 petits sets l'Australienne d'origine croate Alia Tomljanović 6-1-6-1. Tactiquement, techniquement, c'était le match parfait pour la numéro 1 tricolore, encouragée par les 150 supporters français qui ont fait le déplacement à Perth. Mais c'était sans compter Ashleigh Barty, l'Australienne numéro 1 mondiale, a vite douché les ambitions des Bleus en humiliant, et le mot est faible, Caroline Garcia en 56 minutes, 6-0-6-0, les deux premières bulles de la carrière de la Lyonnaise.
Il y a beaucoup de déceptions, c'est difficile de mettre des mots exactement sur ce que je ressens. Mais effectivement, c'est difficile de perdre contre la numéro 1 mondiale sur un grand stade avec un score aussi sévère. Voilà, ma performance n'a pas été à la hauteur, même si Ashley Barty a très bien joué. Donc voilà, à moi d'apprendre ce que j'ai à apprendre du match d'aujourd'hui et d'être capable de me remobiliser demain si Julien fait appel à moi.
Parce qu'il y aura un quatrième match crucial demain, selon le résultat du duel des numéros 1 entre Barty et Mladenovic, eh bien Caroline Garcia pourrait effectivement avoir à entrer sur le court pour aller chercher le trophée ou bien permettre aux Bleus de revenir à deux partout afin de disputer un double décisif.
Notre Madame Tennis, Isabelle Langer en direct d'Australie pour RTL. En football, Mbappé ne verra pas Brest. L'attaquant parisien est de nouveau forfait pour cause de blessure à la cuisse. C'est la 7e fois cette saison. Ouais. Autre match à suivre pour cette 13e journée de Ligue 1. Reims-Angers, Monaco-Dijon, Strasbourg-Nîmes et Lille-Metz. Des rencontres à suivre évidemment en direct dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19h30. A noter qu'hier, Nice et Bordeaux se sont quittés sur un nul, un partout. Bordeaux, justement, c'est là que notre équipe de France féminine rencontre ce soir la Serbie pour les qualifications de l'Euro 2021. Match à suivre sur W9.